Je voulais d'abord, en fait, quand même commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invitée. Je suis très contente, en fait, d'avoir entendu la table ronde, enfin, tout ce qui s'est dit hier et en partie ce qui s'est dit ce matin. Concernant en particulier la difficulté qu'il y avait en France dans les travaux sur la migration d'aborder l'ethnicité et la réception relativement tardive des travaux de Frédéric Barthes dans ce milieu-là. Et en fait, moi, en tant que sociolinguiste, j'ai commencé mes études, enfin mes recherches au Soudan. Évidemment, Soudan, Frédéric Barthes, c'était un de ses grands terrains. Et comme je me suis très très vite intéressée aux questions de langue et processus de construction d'identité collective, j'ai évidemment rencontré très vite les travaux de Barthes, qui ont vite fait partie de mon bagage. Et c'est vrai que j'étais assez étonnée de voir comment en France la réception a été très tardive et comment en fait le travail qu'ont fait Philippe Poutinia et Jocelyne ont vraiment participé à la diffusion de ce travail en France. Alors, je regrette énormément l'absence de Philippe Poutinia parce que j'étais très contente de le revoir. Et ça va être un peu difficile pour moi d'évoquer les travaux autour du plurilinguisme à l'IDERIC, mais heureusement, Robert l'a déjà fait en grande partie. En fait, ce qui me semble intéressant à l'IDERIC, comme dans beaucoup d'autres laboratoires où il y a normalement... Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Mais disons des laboratoires qui se veulent pluridisciplinaires, où doit y avoir à la fois des sociologues, des anthropologues et des linguistes, on s'aperçoit que la collaboration réelle, l'échange réel est assez difficile. Et que souvent, les linguistes, ils se forment quand même un petit groupe. Dans le laboratoire où je suis actuellement, l'IREMAM, il y a 3 équipes. Il y a une équipe de sciences politiques, il y a une équipe d'historiens, et il y a une équipe qui s'appelle langue, littérature et linguistique. Et c'est quand même 3 petits univers. On arrive à faire quand même des choses en commun, etc. Mais ce n'est pas si facile que ça. Et ça m'a toujours beaucoup interpellée, comment dans pas mal de domaines des sciences sociales, le dialogue avec les linguistes n'est pas très facile. Ce que je mets un peu en partie responsabilité les linguistes eux-mêmes, qui quelque part aiment bien s'isoler un peu et considérer que la linguistique, surtout quand il s'agit de linguistique formelle, c'est différent des autres sciences sociales. Enfin, je pense qu'il y a une question comme ça. Et ce que j'ai l'impression à l'IDERIC, c'est ça, ça s'est un peu passé comme ça aussi. C'est-à-dire, normalement, il y avait des sociaux, enfin, tout le monde collaborait. Et pour moi, Philippe Poutinia, c'est peut-être quand même la personne qui faisait vraiment le lien entre les linguistes ou psycho, enfin, hein, et les sociologues, je pense. Bon, ceci dit, moi, j'ai passé très très peu de temps à l'IDERIC. Donc, évidemment, je suis très marginale et je suis un très mauvais témoin. Et pour ce colloque, enfin, quand Philippe Poutinia m'a demandé si je voulais bien venir, etc., j'ai retrouvé quelques publications de l'IDERIC et aussi ceux de Langage et Société. Donc en fait, je suis arrivée à l'IDERIC en septembre-octobre 85. Je venais d'être nommée au CNRS, mais j'y suis restée quelques mois, même pas. Puis je suis très vite repartie au Soudan, je passais ma vie là-bas. Et après, quand je suis revenue, j'ai été raccrochée au fameux Lahore qui était à Sophia Antipolis. Et là, on n'était plus du tout dans de la pluridisciplinarité. On était chez des linguistes purs et durs. Et puis après, je suis repartie au Soudan, en Égypte, enfin bref. Personnellement, sur le plan des recherches en linguistique, à l'époque à l'IDERIC, pour moi, il y a effectivement 3 personnes. Donc Robert en a déjà parlé. Il y a Gabriel Mansi, il y a Paul Wald et il y a Philippe Poutinia. Donc Mansi, comme l'a dit Robert, c'était le linguiste africaniste. Paul Wald, le psycholinguiste qui s'intéressait quand même à la sociolinguistique, et Philippe Poutinia qui faisait le lien. Et en fait, si les 3 ont travaillé ensemble, et publiés ensemble, on perçoit très rapidement la différence d'approche entre Mansi et Paul Wald. Et quand je suis arrivée à l'IDERIC, pourquoi je suis venue à l'IDERIC? Il se trouve que j'ai une formation d'arabisante, pas d'arabisante classique. J'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelait David Cohen, donc c'était les gens qui travaillaient en dialectologie arabe, et qu'effectivement, de façon un peu inconsciente, j'avais choisi pour faire ma thèse l'expansion de l'arabe au Sud-Soudan. Et c'était un contexte, je vous passe les détails, où ma formation, disons, en dialectologie arabe, j'ai tout de suite compris que ça ne le faisait pas. C'est-à-dire partir avec mon petit questionnaire de dialectologie, vu la situation, le contexte politique, le fait de d'une langue qui était en train de se développer, qui devenait la principale langue véhiculaire d'une région plurilingue et qui devenait aussi la langue maternelle des enfants en situation urbaine, etc., etc. Donc un contexte de contact de langue, de variation, de complication entre les rapports justement d'appartenance et de langue, etc. Il fallait que je lise d'autres choses et que j'ai d'autres outils. Donc une partie de mes outils, j'ai été les chercher dans tout ce qui était les études créoles. Et je ne sais plus du tout comment je me suis intéressée. J'ai rencontré les travaux de Gabriel Mansi sur le français en Afrique. Et ce qui était extraordinaire à cette époque, c'est que Gabriel Mansi, je ne le connaissais ni d'Ève, mais ni d'Adam, et nous avons correspondu pendant 2 ans avec Gabriel Mansi, que je n'avais jamais vu, pendant que je faisais ma thèse, et je lui écrivais à la main, et il me répondait, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que avec le truc de la jeunesse, j'ai balancé tout ça, et je me dis, quel dommage, avec sa magnifique, il avait une très jolie écriture. Et ce monsieur, qui ne me connaissait absolument pas, a pris des heures à me répondre et à me conseiller des lectures, etc., etc. Ce qui fait qu'une fois que j'ai soutenu ma thèse et quand j'ai candidaté au CNRS, il y avait aussi, je pense, cette idée à l'époque, qu'on a encore maintenant un peu, c'est, bon, pas tout le monde à Paris, puisque moi j'avais fait ma formation à Paris, vous êtes recruté au CNRS, mais on vous envoie renforcer un peu les labos de province. Et c'est comme ça que j'ai été recrutée à l'IDERIC. Mais donc, pour dire quand même que, déjà, pour des gens qui n'étaient pas africanistes, Gabriel Mansi, en tout cas, il avait vraiment une autorité scientifique. Et c'était vraiment quelqu'un qui apportait... Alors pour moi, le grand acquis des travaux de Gabriel Mansi, bon, j'en reparlerai, ils travaillaient tous dans un réseau, mais c'était toutes ces réflexions de... C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup sur les processus, et pas seulement sur les produits ou les résultats, c'était sur les processus. Donc, qu'est-ce que ça entraîne quand une langue devient véhiculaire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce que c'est qu'un processus de vernacularisation? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se transforme? Donc, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui avait une vraie réflexion théorique et méthodologique. Robert a mentionné, c'est un concept un petit peu compliqué, les travaux qu'il a fait sur la sémantaxe, c'est-à-dire que dans toutes ces discussions qu'il y avait sur qu'est-ce que le contact de langue, c'est quoi l'impact du contact de langue, comment les langues se mélangent, etc., je pense qu'il a apporté, avec cette théorie de la sémantaxe, de montrer combien, quand il y a un contact de langue, c'est pas à la surface qu'on va voir les influences, mais c'est beaucoup plus profondément. Il a vraiment eu une réflexion théorique intéressante et qui, à mon avis, reste très méconnue. Et je reviendrai un peu...
Importante du point de vue cognitif actuel.
Hein?
Importante du point de vue cognitif actuel.
Oui. Alors, l'autre grande figure tutélaire, comme l'a dit Robert, c'était effectivement Paul Wald. Alors, Paul Wald, qui est passé par la psychologie, et qui effectivement était très très ouvert à la sociolinguistique américaine, et en particulier à l'ethnométhodologie et aux travaux de Sicurel hein, sur le cognitive sociologie. Je pense que Paul Wald, je pense que c'est vraiment lui qui a amené à l'IDERIC le lien avec la Maison des sciences de l'homme et avec langage et société, avec son lien avec Pierre Achard. Et pour moi, c'est très difficile de distinguer ce qui se faisait ici à Nice et autour des... comment ça s'appelait les cahiers de... les bulletins du Centre d'études des plurilinguismes et langage et société. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens qui publiaient dans le bulletin, ils publient aussi dans langage et société. Il y avait vraiment un lien. D'ailleurs, cher Robert, je me suis aperçue que dans le numéro 41 de langage et société, non, pas ça, mais dans le numéro 32 de langage et société en 85, on a tous les deux publié un article.
C'est vrai, oui.
Eh ouais, on ne se connaissait pas, mais voilà. Et donc, comme l'a dit Robert, un des grands, grands moments de tous ces gens qui travaillaient sur les questions de contact de langue, ça a été le colloque de Nice de 1987, et qui s'appelait « Contact de langue, quel modèle ?» Et qui est-ce qui a publié les résumés de ce colloque? C'est « Langage et société ». Et l'introduction avait été rédigée par Paul Wald, Gabriel Manzi et Pierre Achard. Et là, je crois qu'on retrouve vraiment, en relisant tous ces résumés, tous les gens qui étaient, c'est vraiment toutes les caractéristiques des recherches de linguistique et sociolinguistique à l'IDERIC. Et ça a vraiment regroupé ce qui était à l'époque tout le Gotha francophone qui travaillait sur les questions de contact de langue. Donc pour moi, les travaux qui ont été menés à cette époque à l'IDERIC, ça a été sur des thèmes qui sont toujours d'une très grande actualité, vraiment. Et en particulier, il y avait un désir, jamais totalement abouti, de décloisonner les disciplines. Et je crois d'articuler théorisation et travaux de terrain. Alors, je vais vous citer le paragraphe 2 de l'introduction, parce que c'était très révélateur. L'objectif de la rencontre, donc de ce fameux colloque, n'est pas d'en rester à la juxtaposition des résultats et des réflexions issues de perspectives théoriques et disciplinaires variées. Les débats devraient permettre d'aboutir à l'explicitation des concepts et des modèles mis en œuvre par les anthropologues, les historiens de la langue, les linguistes, les psychologues, les sociologues, cette liste alphabétique n'est pas close, qui traitent de contact de langue dans la mesure où la portée de ces concepts et modèles dépasse les limites strictes de leurs disciplines respectives. Donc ça, c'était l'objectif de ce colloque. Quand on regarde qui sont les participants, c'est quand même très majoritairement des linguistes ou des sociolinguistes. Mais ça fait rien, il y avait cette idée. Et donc, le grand credo de ces travaux, il me semble, c'était que, comme ils le disent là, le langagier travaille le social en même temps qu'il le traduit et le fixe, et que le social n'est jamais absent de la parole ni de la langue. Donc, ça, c'était vraiment le credo, de, je pense, à la fois de Gabriel Manzi et de Paul Wald, comme tu l'as dit, dans des approches différentes, mais qui était vraiment quelque chose de très fort. Donc, ils ont travaillé sur beaucoup de choses, le plurilinguisme, le contact de langue, l'alternance codique, les pratiques, les représentations, les questions de phénomènes de clôture et de délimitation des langues, les questions de frontières, ce qui est intéressant, puisque c'est tous ces thèmes qu'on continue d'aborder actuellement, la norme, les relations langue-identité, les rapports entre les communautés, leur répertoire, etc. Et effectivement, un ouvrage qui résume bien ça, c'est celui que Robert a aussi cité, c'est-à-dire « Le français tel qu'on le parle et tel qu'on le dit en Afrique hein ». Alors c'est intéressant parce que ça a été écrit à deux mains, mais c'est deux parties différentes. Et ça, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire que Mansi, c'était quand même plutôt la description des faits linguistiques. Paul Valle, c'était plutôt les représentations. Donc, hein, tel qu'on le parle, tel qu'on le dit. Là, vraiment, l'intersection entre les deux, elle reste quand même un petit peu difficile. Pour moi, ce qui se discutait, ce qui se pratiquait à l'Idéric, était à mon avis quand même représentatif de ce qui se déroulait ailleurs en France, dans le milieu qu'on appelait la sociologie du langage ou la sociolinguistique. Alors, est-ce que c'était un milieu minoritaire en France? Alors, par rapport à la linguistique formelle pure et dure, oui, peut-être. Mais en même temps, hier, je vous entendais parler de combien les gens qui travaillaient sur la sociologie des migrations se sentaient minoritaires. Je me suis dit, est-ce qu'on se sentait minoritaire? Est-ce qu'on se sentait marginalisé? Je ne sais pas. Non, enfin, je pose la question, on pourra en redébattre après. En même temps, c'était une période où il y avait un développement très riche des études créoles. Et dans ces études créoles, la linguistique tenait un rôle important. Donc, enfin, je ne sais pas. Ce qui me frappe quand même, c'est que pour moi, Mansi et Valle sont restées des voix qui sont restées, pour moi, singulièrement, en tout cas avec le recul, peu entendu, peu médiatisé, peu cité dans les travaux anglophones, par exemple. Si vous comparez avec un Louis-Jean Calvet, la star des médias, traduit dans je ne sais pas combien de langues, etc., je veux dire, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, même dans les milieux créolistiques internationaux, je trouve que Gabriel Mansi est peu cité, peut-être plus maintenant, je ne sais pas, mais peu cité. Alors, la question, comme je vous l'ai dit, je pense que Mansi, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui avait un apport théorique très important et, à mon avis, qui fera partie des gens qu'on va redécouvrir. Certainement quelqu'un dont on recitera le travail, peut-être dans quelques années, les gens reviendront dessus. Je me suis un peu posé la question par rapport à Paul Valle. Est-ce qu'il était vraiment novateur? Et moi, je pense que Paul Valle, en fait, c'était un passeur. Il lisait les théoriciens anglo-saxons, tout ce qui se faisait en sociolinguistique nord-américaine, loin, devant, etc. Et il les amenait un peu en France et il les discutait avec des gens comme Pierre Achard et tout ça, je pense, hein. Même l'autre question que je me pose, c'est dans quelle mesure les travaux en linguistique et sociolinguistique à l'Idéric sont restés influents en France maintenant. Je n'ai pas fait d'enquête sur ces questions. Il faudrait voir comment ils sont cités, par qui, etc. Je n'ai pas travaillé là-dessus, mais je n'en suis pas si sûre. Alors maintenant, très rapidement, je voudrais revenir sur un petit exercice qu'on m'a demandé de faire parce que Philippe Poutinia n'est pas là. C'est justement de revenir sur l'article qu'ils avaient écrit, Paul Valle et Philippe Poutinia, qui s'appelait « Français et Sango à Bouard, fonction marginale du français dans les stratégies interpersonnelles ». Alors j'ai relu l'article hier soir, puisque Jocelyne l'a imprimé pour que je puisse le relire, et ça me semble, là encore, tout à fait représentatif un peu de ce qui se passait à ce moment-là à l'Idéric. Donc, il y a deux parties. Et dans la première partie, on retrouve ce grand souci de se positionner théoriquement dans une approche de psychologie sociale pour essayer de montrer quels sont les outils qui permettent d'analyser comment les locuteurs et les auditeurs, dans des contextes plurilingues et mouvants, construisent des jugements de valeur. Ce qu'on appellerait maintenant, et qui est un domaine très très important actuellement dans ce qu'on appelle l'anthropologie linguistique, c'est les représentations et les idéologies linguistiques. Alors, je vous passe tous les détails, mais enfin, il y a vraiment toute une première partie très théorique. Hein. Pourquoi telle valeur va être associée à telle langue ou telle trait de langue dans un contexte donné? Et ça, c'est vraiment des études qu'on voit se développer actuellement, très nombreuses, sauf que peut-être la différence avec ce qui se fait maintenant par rapport à ce qu'ont fait Paul Wald et Philippe Poutignat, c'est qu'eux sont restés, ils s'intéressaient justement uniquement aux valeurs et représentations linguistiques et aux traits linguistiques, alors que maintenant, les gens développent ce qu'on appelle une analyse qui est plus multi-levels ou multiscalaire, c'est-à-dire tu associes le trait linguistique avec la façon de s'habiller, avec ta-ta-ta-ta-ta-ta, pour essayer de travailler sur ces questions de représentation linguistique. Donc, une partie très théorique, très inspirée des travaux de Robert Pagès sur les questions d'attribution, et qui est vraiment dans l'idée qu'il faut descendre au niveau des interactions pour vraiment comprendre la subtilité de ces questions d'attribution, de représentation, et on ne peut pas rester au niveau macro-linguistique, les enquêtes par questionnaire, etc. Ce n'est pas ça qui va vraiment nous permettre de comprendre comment les gens se positionnent. Et puis il y a la partie pratique qui porte sur justement l'utilisation du français et du sango à boire en Centrafrique, avec présentation du contexte général, donc le plurilinguisme centrafricain, le sango qui est une langue à la fois vernaculaire et véhiculaire utilisée par tous, le français qui est la langue institutionnelle, normée, etc. Et en gros, qui utilise quoi et quelles valeurs sont attribuées à telle ou telle langue. Et alors, pour moi, cet article, il souligne les forces et les fragilités du type d'études qu'on faisait à l'époque. Et quand je dis « on », je m'inclus complètement dedans. D'abord, c'est présenté un peu comme un projet. Hein. Donc, on a fait un travail, mais ce qu'on vous présente, ce n'est pas achevé, mais on a des idées, ta, ta, ta. Et puis, les représentations sur les usages des langues, sur les représentations que les gens se font de ces usages des langues, elles sont saisies uniquement à travers des énoncés que les gens leur ont faits. C'est-à-dire, je vais vous citer très rapidement un petit énoncé. Je vais essayer d'en trouver un. Tandis que je retrouve. Voilà, j'en cite un. Pour celui que tu ne connais pas, il faut tout d'abord parler français. Mais celui qui est, par exemple, ton ami et qui sort fonctionnaire avant toi, tu es libre, tu peux même parler sango, ça ne te gêne pas, lycéen, 18 ans. Et donc, finalement, ça c'est un type de travail que maintenant, on considérait quand même un petit peu limité, c'est-à-dire, l'idée de travailler sur les représentations langagières en se basant uniquement sur des énoncés conscients, sans travailler sur tout ce qui permettrait de voir qu'est-ce qui relève de l'idéologie et des représentations linguistiques, mais de façon plus inconsciente. Et finalement, qu'est-ce qui est souligné? On se dit, c'est qu'il n'y a pas une distribution fonctionnelle, claire et marquée. On ne peut pas dire que le français c'est que là et que là, et que le sango c'est que là et que là, et qu'il y a plein d'endroits où ça se mélange, etc. Et que l'usage du français, ce n'est pas réservé qu'à la norme, à la légitimité, que les représentations sont ambivalentes, que parfois c'est prestigieux, mais parfois c'est pas moins prestigieux, etc. Bon, des tas de choses qui après ont été quand même beaucoup, qui ont été modélisées, dites de façon beaucoup plus construite, je dirais, en particulier, encore une fois, dans la sociolinguistique anglo-saxonne. Et à mon avis, dans cet article, il y a quand même un décalage entre l'ambition de la première partie théorique et la réalité de la deuxième partie. Et qui laisse une impression d'ébauche, un travail qui n'est pas vraiment finalisé. Donc un côté un petit peu amateur, mais qui est vraiment ce que je ressens aussi quand je lis, enfin même ce que moi j'ai écrit, ce qui a été publié dans les bulletins d'Idéric ou au Langage et Société, je me dis, mais dame Ned, mais comment finalement on nous a laissé publier des choses comme ça, enfin maintenant, jamais, on a, enfin un doctorant ou un jeune post-doctorant qui publierait ça, ça, on se dirait, bon, il y a de l'intuition, il y a des bonnes idées, il y a des choses, c'est intéressant, mais ça reste un peu amateur. Mais je pense que c'était aussi le effectivement, vous en avez beaucoup parlé, c'était aussi un peu le climat de l'époque, c'est-à-dire, bon, on aimait bien discuter sur certaines choses, mais après, des fois, on n'allait quand même pas jusqu'au bout. Où on n'avait pas aussi les moyens, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas aussi non plus les moyens financiers de nos ambitions. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bricolage. Et je pense que nos publications, elles étaient aussi très bricolées. Donc, c'est là ce qui s'est... Et donc, à mon avis, c'est un article qui est relativement daté en ce qui concerne la restitution du travail de terrain. Pas dans le positionnement théorique. Le positionnement théorique, il reste très fort. Mais la restitution du terrain, elle est un petit peu... Et pour moi, ça illustre une des faiblesses qui reste un peu... Enfin, je le dis de façon... peut-être exagérée. Mais qui reste une faiblesse pour moi quand je vois ce qui se produit, de ce qui se produit dans les réseaux, ce qui s'appelle les réseaux de sociolinguistique française actuellement. Très fort sur la théorisation. Beaucoup de blabla sur la théorisation. Mais des fois quand même, un peu faible sur vraiment le travail de terrain. Et ça, c'est quelque chose qui, quand moi je lis un peu ce qui se publie actuellement en sociolinguistique française qui me pose un peu problème. Enfin, je suis peut-être un petit peu trop négative, mais c'est quand même une vraie question. Alors, pour finir, si tu me donnes encore 2 minutes, ça va. Je voudrais revenir avec vous sur une question qui m'a beaucoup intéressée par la suite dans mon travail. Et je quitte un peu l'Idéric, mais pas tant que ça. Qui est la question des catégories ethno-linguistiques. Et le fait que, en ce qui concerne les catégorisations ethno-linguistiques, qui sont des catégorisations qui sont utilisées dans beaucoup de pays, et je pense particulièrement en Afrique, où on considère, c'est une, des catégorisations, comme on le sait, qui ont été créés à l'époque de la linguistique coloniale, dans un contexte très particulier, où on répertoriait les populations, etc., etc., et où on établissait une corrélation directe entre un groupe ethnique et une langue. Hein, les machins parlent le truc, les bidules parlent ceci, les... Nanana. Bon. Donc ces classifications, elles ont été bien établies pendant la période coloniale, on les connaît bien. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les catégorisations ethniques, ça fait très longtemps qu'elles ont été déconstruites. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce travail qui a été fait par Barthes, mais bien d'autres après, pour montrer combien c'était effectivement des constructions qu'on pouvait vraiment reconstruire leur construction et les déconstruire. Alors que, et je pense que ça, chez tous les anthropologues qui se respectent, c'est vraiment un lieu commun qui est maintenant très très bien compris. Très bizarrement, les catégorisations linguistiques, elles sont restées pour une grande partie des linguistes, et là, Robert pourra en témoigner, ces classifications linguistiques, elles sont restées beaucoup plus résilientes et beaucoup plus difficiles à remettre en question. Même s'il y a des travaux qui ont été faits pour montrer comment on a construit cette catégorie de langue A ou de langue B ou de langue C ou de langue D, très bizarrement, chez les linguistes, il y a quand même une beaucoup plus grande réticence que chez les anthropologues à vraiment admettre cette déconstruction et à réfléchir dessus. Et bon, par exemple, il y a des très beaux articles de Judith Ervin sur ces questions, je ne sais pas si vous les connaissez, et qui expliquent qu'en partie pourquoi ces constructions, ces catégorisations linguistiques sont moins... Enfin, la déconstruction est moins bien acceptée chez les linguistes, parce qu'elle explique bien que chez les linguistes, il y a quand même eu toujours cette tendance à vouloir faire de la langue un système un peu autonome avec ses propres lois, plus tourné en fait vers les sciences dures que vers les sciences sociales. Bon, depuis une vingtaine d'années, et ça a été quand même l'apport des post-colonial studies, on peut les critiquer, les trouver trop caricaturales, etc. Il y a eu tout ce questionnement sur qu'est-ce qu'une langue, comment on a créé cette catégorie-là, comment ça bouge, etc. Mais un des paradoxes que je trouve actuellement extrêmement intéressant, c'est que si on pense à ce qui se passait au début du XXe siècle, quand cette linguistique coloniale s'est vraiment développée, a émergé, a fait tous ces travaux qui restent des travaux fondateurs quand même, parce que à l'époque, on ne sait pas très bien ce que les gens eux-mêmes, là, ceux qu'on allait étudier, quels étaient eux leur perception, leur catégorisation, etc. C'est effectivement des linguistes externes qui ont construit ces catégories. Aujourd'hui, on est dans une situation où, que ce soit les anthropologues, ou un peu moins les linguistes, mais un peu quelques linguistes, sont en train de déconstruire les catégories qu'ils avaient construites, que par contre, les gens des sociétés civiles concernées, eux, sont de plus en plus dans la construction de catégories. Et par rapport à ce que vous parliez hier, par exemple dans un pays comme le Soudan actuellement, où, inspiré aussi justement par tout ce qui s'est passé dans les organisations internationales sur le droit aux langues, et dans un contexte politique, où on est dans un contexte de compétition ethnique vraiment mortelle, si je peux dire, on se tue quand même. Et c'est cette construction ethnique qui va déterminer l'accès aux ressources, à la terre, etc. Une des façons de se montrer qu'on est un groupe ethnique spécifique par rapport à d'autres, je ne suis pas un machin, mais je suis un truc, c'est de dire ma langue, elle est spécifique. Moi, j'ai une langue, je ne sais pas, un dialecte de ceci. Et je trouve absolument tout à fait fascinant de voir qu'on est dans un moment où pas tous les gens, pas toute la population civile, mais des gens qui se disent un peu porte-parole de leur groupe, eux mobilisent de plus en plus des catégories et construisent des frontières quand nous, on est dans la déconstruction des frontières. Et c'est vraiment... je trouve que c'est un moment pour moi qui est assez... intéressant de... Et j'ai suivi un peu... vous avez un institut, enfin, il y a des gens qui doivent connaître, qui s'appelle le Summer Institute of Linguistics, qui est un institut évangéliste. Et ce sont des gens qui traduisent, entre autres, la Bible dans toutes les langues du monde. C'est aussi des gens qui, pour les linguistes, ont la database la mieux fournie. Donc, quand vous voulez savoir combien il y a de locuteurs sur la langue des machins, vous allez sur Ethnologue, vous tapez, tac, tac, et vous avez des informations. Les linguistes du Summer Institute of Linguistics ont été très, très présents au Sud-Soudan pour travailler sur les langues du Sud-Soudan dans une optique de l'enseignement, d'enseigner ces langues. Et ils sont trouvés des fois, je vous passe les détails, dans des situations un peu compliquées où ils avaient plus assez d'argent, plus les moyens. Enfin, donc ils avaient toute une démarche, mais qui se retrouve partout ailleurs, c'est on se base sur la communauté, on forme des linguistes dans la communauté, puis c'est eux qui vont construire leur grammaire sur leur langue et produire leurs readers, etc., etc. Et eux se sont retrouvés confrontés à ce paradoxe que eux, en tant que linguistes bien formés, voulaient décrire la langue, une langue, ça, avec bien sûr, il y aurait des variétés dialectales, mais il y aurait une langue qui pourrait être enseignée, et des gens des communautés qui disaient ah non, mais moi là, c'est pas un dialecte, et je veux pas que vous je veux pas que vous fassiez une grammaire commune avec cette langue-là qui sera enseignée, parce que nous, on est les machins, et nous, on veut notre grammaire dans notre langue à nous. Donc, il est en train de se passer actuellement, je pense, un phénomène qui existait peut-être moins avant, où avant, il y avait des experts. Donc, le linguiste, c'était l'expert. Mais maintenant, vous avez des milliers de personnes qui contestent ce pouvoir de l'expert, que ce soit un linguiste étranger ou un linguiste national. Et voilà, je vais finir là-dessus parce que je pense que, y compris comme pour les gens qui travaillent sur les questions de uniquement d'une approche plus sociologique, anthropologique, sur les questions d'ethnicité, de rapport ethnique, etc., ce qui est en train de se passer autour de ces langues, de ces catégorisations linguistiques, etc., je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Merci.